Bonjour à tous, c'est Jérémy. Petit message avant de commencer cet épisode pour vous dire simplement que vous pouvez accéder dès à présent et de façon exceptionnelle au replay de l'événement que j'ai lancé récemment, à savoir le sommet de la productivité. Un événement dans lequel j'ai réuni 7 experts de mon réseau pour vous animer gratuitement un total de 8 conférences sur la productivité. Des conférences sur l'énergie, sur la procrastination, sur également tout ce qui est charge mentale et j'en passe. Donc si jamais vous souhaitez accéder à 8 heures de contenu 100% gratuit sur la productivité, c'est maintenant ou jamais. Car je couperai les accès à ces replays-là, à ces rediffusions-là, le dimanche 28 avril à minuit. Si jamais ça vous intéresse, cliquez simplement sur le tout dernier lien présent en description de chacun de mes épisodes de podcast. Maintenant, je vous laisse avec l'épisode que vous souhaitez écouter. À très vite. Bienvenue sur ce tout nouvel épisode de Soft Skiller, sur ce tout nouvel épisode dans lequel je vais vous parler d'un super outil, d'un outil qui s'appelle la matrice Eisenhower. Alors pourquoi c'est un super outil ? En fait, parce que cette matrice Eisenhower peut être considérée comme étant un outil 3 en 1. Un outil qui va vous permettre de progresser à la fois sur votre capacité à prendre les bonnes décisions, sur votre capacité à vous organiser et sur votre capacité à mieux gérer votre temps. Alors en fait, forcément, ces trois compétences sont liées entre elles. Parce que si vous apprenez à mieux décider, à décider plus efficacement, à aller droit au but dans votre décision, forcément, derrière, vous allez mieux vous organiser parce que vous allez savoir sur quoi aller en priorité. Et donc, logiquement et par conséquence, vous allez gagner du temps. D'où cette capacité à mieux gérer votre temps grâce à cet outil. Alors, avant de vous présenter dans le détail ce qu'est la matrice Eisenhower, j'ai envie de faire un petit focus avec vous sur l'organisation. Parce que l'organisation est une chose très importante aujourd'hui. Et je pense que beaucoup d'entre vous, comme moi, alors soit vous êtes actuellement en train de le faire, soit vous l'avez fait durant le passé, beaucoup d'entre vous s'inquiètent de mieux s'organiser. Et forcément, quand on commence à s'intéresser à l'organisation, les premiers conseils que l'on voit partout sur Internet, sur YouTube ou sur des blogs, peu importe, même dans des livres, c'est de noter ce que l'on doit faire, de tout noter. Et c'est un excellent conseil. Pourquoi c'est un bon conseil ? Parce qu'en fait, beaucoup de personnes pensent pouvoir tout retenir, alors que c'est faux. Le cerveau est un outil très puissant quand il s'agit de réfléchir, de faire des raisonnements, de visualiser, de se projeter. Mais c'est un très mauvais outil, par contre, en ce qui concerne le fait de retenir les choses. Et ça, on l'a tous vécu, notamment dans le cadre de l'école. Qui n'a pas révisé par cœur ses contrôles ? Une fois que le contrôle était terminé, on ne se souvient plus de rien. On oubliait 90% des choses qu'on a révisées il y a 24, 48 ou 72 heures en arrière. Donc le cerveau, encore une fois, est très mal fait pour retenir les choses. D'où le fait que de tout décentraliser, de décentraliser, on va dire, sa mémoire sur du papier ou sur n'importe quel support informatique, peu importe, est une excellente idée pour mieux s'organiser. Enfin, plutôt, c'est une excellente idée pour vraiment ne rien oublier dans les tâches qu'on a à accomplir. Parce que si on se limite uniquement à lister les choses qu'on a à faire, on va se heurter rapidement à un problème. Le problème que j'appelle, on va dire, le phénomène liste de courses. Quand on commence à lister les tâches qu'on a à faire, on liste tout de façon un peu décousue. Tout ce qui nous passe par la tête, on va le lister, on va le coucher sur papier, ou sur document Word, ou sur tablette, peu importe. Sauf que ces choses-là n'ont pas de lien entre elles. Les idées sont réellement notées à la volée, comme quand on établit une liste de courses. Quand on fait sa liste de courses, on regarde autour de soi, on ouvre le frigo, tiens, il manque des pommes de terre, tiens, il manque du riz, il manque, du liquide vaisselle, du sopalin, des piles, peu importe. Du coup, on liste les choses au fur et à mesure qu'on les remarque dans la pièce pour faire sa liste de courses. Et si, une fois qu'on arrive en course, on se tient réellement à suivre la liste dans l'ordre, on s'éparpille. On court un peu partout dans le magasin et on n'est pas du tout efficace. On n'optimise pas son temps et pas son organisation. Et justement, c'est ça le problème quand on se limite uniquement à lister les choses qu'on a à faire. Ce qui veut dire, on arrive le lundi matin, on liste toutes nos tâches de la semaine. Après, on prend notre liste qui est complètement énorme en temps normal. Et on regarde la liste et on ne sait pas par quoi commencer parce qu'aucune tâche est liée avec les autres. Si on la suit, si on suit la liste hiérarchiquement, si on prend première étape, deuxième étape, troisième étape, quatrième étape, on va se disperser parce que peut-être qu'en première étape, on a noté, je sais pas, rendre le compte rendu à Jean-Michel. Après, deuxième étape, on a racheté des trombones. Après, quatrième étape, on a passé un coup de fil à Jean-Louis. Voilà, c'est des choses qui ne sont pas optimisées. Par contre, si on apprend maintenant à réellement trier cette liste, si on apprend à gérer les priorités dans cette liste, si on apprend à distinguer l'urgent de l'important dans cette liste, là, on va être efficace. Là, on va gagner du temps. Là, on va mieux s'organiser. Et c'est justement ce que permet de faire la matrice Eisenhower. Elle permet d'apprendre à distinguer l'urgent de l'important. Et c'est réellement important de savoir distinguer l'urgent de l'important aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'on est dans un monde en fait de sursollicitation. Constamment, on a des emails, constamment, on a des notifications qui viennent nous déranger, qui sont généralement des choses pas spécialement urgentes et pas spécialement importantes. Mais souvent, on y consacre, on va dire, une importance et une urgence beaucoup trop grande par rapport à ce que ces choses-là peuvent nous rapporter. Et donc, on se disperse, on commence une tâche importante et urgente, et bim, on switch à une notification, à un email, pour répondre à Jean-Paul comme quoi oui, on sera bien présent à la réunion du 24. Et du coup, on se déconcentre sur sa tâche principale, et on perd du temps. On perd un temps complètement énorme sans s'en rendre compte. Bref, j'ai pas mal digressé par rapport à mon plan, on va dire, mais peu importe. Avant de vous présenter dans le détail la matrice Eisenhower, je vais vous préciser ce que sont les termes urgents et importants, parce que je les ai évoqués depuis quelques minutes sans réellement vous les définir. Donc, en tout cas dans le cadre de la matrice Eisenhower, que sont ces termes ? Déjà, qu'est-ce que l'important ? Qu'est-ce qu'une tâche importante ? Encore une fois, dans le cadre de la matrice Eisenhower, une tâche importante, en fait, c'est une tâche qui permet de progresser vers l'un de nos objectifs, qui permet de progresser vers l'un des buts que l'on s'est fixé. Ça, c'est pour la notion d'importance. Maintenant, si on switch sur la notion, on va dire, d'urgence, là, c'est une tâche qui requiert une intention immédiate. C'est une chose que l'on doit faire très rapidement, contrairement à une chose qui est non urgente, que l'on peut repousser dans le temps sans qu'il n'y ait de conséquences directement sur nous, sur notre travail ou sur notre équipe. Voilà. Maintenant, hop, on se refocalise sur la matrice Eisenhower. Cette matrice, pour comment dire, votre culture personnelle, a été élaborée par un ancien président des États-Unis, d'où le titre de ce podcast « S'organiser comme un président », par le président Dwight D. Eisenhower. Alors, pour toutes les personnes qui aiment One Piece, le D doit vous faire penser à de nombreuses théories et rumeurs. Ce président était justement reconnu pour sa très grande capacité à, comment dire, à s'organiser et à savoir prendre les bonnes décisions. Je crois, alors là vraiment, peut-être que je me trompe, ça sera à vérifier, que c'est grâce à cette matrice-là que Dwight D. Eisenhower a notamment remporté la guerre du Golfe. Alors peut-être que je dis des bêtises, c'est vraiment à vérifier. Je mettrai ça en note du podcast si c'est nécessaire. Également, alors là je vous parle un peu de mes vieux souvenirs quand j'avais fait des recherches sur la matrice il y a peut-être 3 ans en arrière, quand je m'étais intéressé à cet outil. C'est également le président, fun fact, hein, qui a instauré un golf à la Maison Blanche, et également sa femme s'appelait Mamie. Voilà, c'est des informations qui m'avaient fait rire à l'époque. Et donc en fait, ce cher Dwight D. Eisenhower avait, on va dire, une citation qu'il répétait assez souvent, et qui représente le cœur même de la matrice qu'il a élaborée. Cette phrase, c'est laquelle ? C'est « ce qui est important est rarement urgent, et ce qui est urgent est rarement important ». Donc voilà, on retrouve ces termes d'importance et d'urgence que j'ai définis préalablement. Maintenant, venons-en réellement sur l'outil, sur la matrice en elle-même. Alors, je tiens à m'excuser par avance pour toutes les personnes qui n'ont pas accès à Internet. C'est un outil qui est assez visuel, c'est un outil qu'il faut se représenter pour réussir à l'imaginer et pour réussir à comprendre son fonctionnement, mais je vous rassure que c'est assez simple. Et pour toutes les autres personnes, soit qui m'écoutent au bureau, ou soit qui m'écoutent en faisant la cuisine, peu importe, sortez votre téléphone, prenez votre PC, voilà, ce que vous voulez, et tapez sur Internet, sur Google bien sûr, hein, parce que les autres moteurs de recherche, autant dire qu'ils restent quand même assez minoritaires, tapez « matrice Eisenhower ». Donc Eisenhower, Eisenhower. Normalement, j'ai pas fait de faute dans l'orthographe. Donc, cette matrice, elle prend quelle forme ? Elle prend la forme d'un carré. d'un carré qui lui-même est coupé pile poil au centre par un axe horizontal et par un axe vertical. L'axe horizontal étant l'axe important non important, et l'axe vertical étant l'axe urgent non urgent. Et donc, ce carré est découpé en quatre cadrans. Un cadran qui va être situé en haut à gauche de la matrice, qui est le cadran tâche importante et urgente. Ensuite, on a un cadran qui est situé, lui, en haut à droite de la matrice, le cadran des tâches importantes et non urgentes. On en a un ensuite qui est en bas à gauche, cette fois-ci, qui est le cadran urgent et non important. Et enfin, un dernier qui est situé, quant à lui, en bas à droite, qui est l'axe non urgent, non important. Encore une fois, pour toutes les personnes qui n'ont pas spécialement accès à un visuel de la matrice Eisenhower, écoutez le podcast jusqu'au bout, vous allez comprendre le fonctionnement. Et une fois que vous serez arrivé à votre point de destination, ou une fois que vous serez en capacité plutôt d'accéder à Internet, jetez un œil à la matrice pour vous la représenter réellement. Donc, maintenant, reprenons encore une fois notre matrice. Dans le premier cadran, dans le cadran situé en haut à gauche, donc le cadran tâches urgentes et importantes, toutes les tâches qui vont se situer dans ce cadran-là seront des tâches à faire rapidement, parce qu'elles sont urgentes, et à faire par soi-même, car ce sont des tâches importantes. Ce sont des tâches qui nous permettent de progresser vers l'un de nos objectifs. Ensuite, en ce qui concerne le cadran numéro 2, donc celui qui est situé en haut, mais à droite cette fois-ci, le cadran des tâches importantes et non urgentes. Là, ce sont des tâches qu'il faut planifier, qu'il ne faut pas faire spécialement maintenant, mais qu'il faut faire par la suite. Et quand je parle de planification, c'est pas spécialement le planifier cette tâche-là dans un mois, dans six mois, dans deux ans, non. Ça peut être simplement de se dire, une fois que j'aurai terminé les tâches importantes et urgentes, je commencerai, seulement à partir de là, à m'attaquer aux tâches numéro 2, donc les tâches importantes et non urgentes. Maintenant, passons au cadran numéro 3, le cadran des tâches urgentes et non importantes. Donc là, ce sont des tâches, certes, qui sont à faire dès maintenant, qui requièrent une intention immédiate, mais qui ne sont pas importantes pour nous, qui ne vont pas nous faire progresser vers l'atteinte de nos objectifs. Du coup, ces tâches, qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, simplement, si on a la capacité de le faire, bien entendu, on va les déléguer. On va les déléguer à quelqu'un d'autre pour qu'il les fasse immédiatement, mais on va dire que ça nous permet, nous, de ne pas nous disperser sur les tâches qui ne nous importent pas spécialement grand-chose. Nous, on va se concentrer sur les tâches qui sont importantes pour nous, et donc ces autres tâches, les tâches non importantes et urgentes, on va les déléguer à quelqu'un d'autre. Et enfin, dernier cadran, le cadran numéro 4, les tâches non urgentes et non importantes. Alors c'est des tâches qui, à la fois, ne nous servent pas directement, et qui également ne sont pas à faire dès maintenant. Alors qu'est-ce qu'on va en faire? On va tout simplement s'en débarrasser, on va les abandonner, parce qu'elles n'apportent strictement aucune plus-value pour nous, ce sont plus des tâches qui vont nous freiner dans l'atteinte de nos objectifs. Donc on s'en débarrasse ni plus ni moins. Voilà, c'est ça le principe même de la matrice Eisenhower. C'est répartir ces tâches en fonction de ces quatre cadrans-là pour apprendre à les prioriser. Et donc pour gagner de l'efficacité et pour gagner du temps. J'ai conscience, on va dire, que ça reste quand même assez théorique comme présentation. Je vais donc vous donner quelques exemples de tâches que l'on peut mettre dans chacun de ces cadrans. Si on prend le cadran numéro 1, donc, pour rappel, le cadran des tâches urgentes et importantes. Ça peut être quoi? Ça peut être notamment le fait d'avoir un dossier à rendre à quelqu'un avant une certaine échéance. On a donc bien la notion d'urgence, parce qu'il y a la notion d'échéance qui est présente, et également la notion d'importance, parce que si on a un dossier à rendre, c'est forcément que ça nous permet, nous, d'atteindre l'un de nos objectifs. Également maintenant, si on passe sur la partie plus personnelle et non plus dans le cadre professionnel, une tâche urgente et importante, ça peut être par exemple faire réparer sa voiture. Notre voiture tombe en panne, il est urgent et important de la réparer, sinon on ne peut plus se déplacer et forcément il y a des conséquences assez importantes pour nous à cause de cette non-mobilité, on va dire. Maintenant, si on switch à la case numéro 2, donc la case des tâches importantes et non urgentes. On peut caser dedans faire du sport. Faire du sport, c'est quelque chose qui est important pour nous, mais qu'on fasse notre séance de sport aujourd'hui ou demain, tant qu'elle est faite, c'est ça le plus important. Peu importe quand on l'a fait, tant qu'on l'a fait, au final, c'est accompli, on va dire. Même chose pour lire des livres. Lire des livres, c'est très bien, donc c'est important, ça nous apporte de la prise de recul, des connaissances, etc. Mais est-ce qu'il est urgent de lire un livre à l'instant T? Non, je ne pense pas. À moins qu'on soit dans un cadre précis, un cadre scolaire, où effectivement il y a une deadline à respecter, et là, auquel cas, lire ce livre-là passera dans la case numéro 1, dans la case des tâches urgentes et importantes. Maintenant, case numéro 3, donc les tâches qui sont à la fois non importantes et urgentes, ça peut être toutes les tâches, on va dire, qui ne rentrent pas dans notre contrat de travail. Toutes les tâches qu'on fait un peu en dehors de son cercle de compétences habituel, plutôt de son cercle de responsabilité habituel. Donc ces tâches, il est potentiellement urgent de les faire parce qu'on nous sollicite pour les faire, donc forcément il y a des conséquences par la suite, mais ces conséquences ne sont pas, on va dire, ne sont pas importantes pour nous. Ça va potentiellement impacter quelqu'un d'autre, effectivement, mais nous, la réalisation de ces tâches-là ne va pas nous permettre de nous avancer vers notre objectif. Donc il faut déléguer ces tâches. En tout cas, si on a la possibilité de le faire, bien entendu. Et enfin, dernier cadran, je pense que je vais potentiellement en brusquer plus d'un et plus d'une en disant ça, mais regarder la télévision, jouer aux jeux vidéo, aller sur Facebook, Instagram, Twitter ou autre, c'est ni important, ni urgent. C'est tout simplement à supprimer de sa liste de tâches à faire. Personnellement, je n'ai pas de télévision chez moi. Personnellement, je ne joue plus aux jeux vidéo. Certes, je peux comprendre que ça peut aider certaines personnes un peu à poser le cerveau, à se libérer et donc à, comment dire, à reprendre un peu d'énergie pour être plus productif par la suite. Auquel cas, c'est bien, certes, mais ces tâches-là ne doivent pas prendre le dessus sur les autres tâches. Je ne dis pas que vous devez à tout prix les supprimer, non. Je dis par contre que vous devez les faire en dernier. Faites déjà vos tâches qui sont urgentes et importantes, ensuite vos tâches qui sont importantes et non urgentes, déléguez les tâches urgentes et non importantes, et une fois que tout ça est fait, et bah passez potentiellement aux tâches non urgentes et non importantes, on va dire pour vous récompenser, pour avoir un peu la gratification du travail accompli. J'ai fait tout mon travail de la journée, tout mon travail de la semaine, je peux m'octroyer une partie de jeu vidéo pour décompresser. Je peux m'octroyer le fait d'aller, je sais pas, regarder la télévision pour me divertir, pour me faire du bien. Voilà, ces tâches-là sont réellement à faire en un dernier lieu si vous ne voulez pas les supprimer tout simplement. Voilà. Vous avez maintenant eu on va dire, la partie théorique sur la matrice Eisenhower. Je viens de vous donner, on va dire, maintenant des exemples concrets de cette matrice-là. Maintenant, précisément, comment on met en place la matrice Eisenhower pour l'utiliser au quotidien. Ça commence simplement par le fait de dessiner la matrice, la dessiner soit sur informatique, soit sur papier. Peu importe après, chacun ses préférences. Alors personnellement, je suis très axé sur l'informatique, mais bon, ça n'engage que moi. Ensuite, il faut compléter cette matrice Eisenhower à partir de la liste de tâches, de la to-do list que vous avez établie en amont. Vous reprenez votre to-do list, donc l'ensemble des tâches, on va dire, listées un peu à la volée, votre liste de courses entre guillemets, et ensuite vous reprenez ces tâches-là une par une et vous les placez dans chacun des cadrans de la matrice Eisenhower. Vous les répartissez dans chacun de ces cadrans-là. Et après, vous allez tout simplement traiter les tâches dans l'ordre de la matrice. Donc en commençant par les tâches urgentes et importantes, ensuite par les tâches importantes et non urgentes, ensuite vous déléguez, pour rappel, celles qui sont urgentes et non importantes, et vous supprimez, tant que possible, les dernières, donc les tâches qui sont ni urgentes ni importantes. Voilà, c'est comme ça qu'on met en place tout simplement la matrice Eisenhower dans son quotidien. Maintenant, je vais vous lancer un petit défi, parce que certes, vous présentez cet outil, c'est merveilleux, peut-être que vous vous dites, waouh, super, un outil génial, il faut que j'utilise, mais vous n'allez jamais passer à l'action, voilà. Moi, je veux que vous passiez à l'action, je veux que vous essayiez cet outil. Voir s'il vous correspond ou non, voir s'il vous permet ou non d'apprendre à distinguer l'urgent de l'important. Donc, mon défi, c'est lequel? C'est de mettre en place la matrice Eisenhower pendant au minimum une semaine. Vous allez commencer potentiellement demain, lundi prochain, ou peu importe en fonction de quand vous écoutez ce podcast-là, et vous allez vous en servir pour gérer à la fois vos tâches professionnelles ainsi que vos tâches personnelles. Faites ça simplement pendant une semaine, simplement pendant 7 jours. 7 jours, c'est rien du tout, essayez, rendez-vous compte par vous-même si l'outil vous convient ou non, et si grâce à celui-ci, vous parvenez à mieux gérer votre temps, à mieux vous organiser, et surtout à développer votre capacité à vous décider plus efficacement et plus rapidement sur les tâches que vous devez faire en priorité. Donc sur les tâches qui sont, je le martèle un peu, je sais, qui sont donc urgentes et importantes. Mettre en place cet outil, je vous le garantis, c'est réussir à apprendre à se concentrer, à laisser toute son énergie sur les tâches les plus importantes, sur les tâches qui vont nous permettre d'avancer vers notre objectif, et non pas de nous disperser sur des tâches un peu futiles qui nous donnent certes l'impression d'avancer, parce qu'on voit notre to-do list diminuer, mais qui au final sont des coups d'épée dans l'eau, parce qu'elles ne nous font pas avancer vers l'atteinte de notre but. Voilà. Et maintenant, pour terminer cet épisode qui sera un peu plus court que les autres, qui va durer une grosse vingtaine de minutes, on va dire, sachez que je vais mettre en description des liens vers des applications téléphone, tablette ou ordinateur de matrice Eisenhower. Il y en existe plusieurs. Alors, la plupart sont en anglais, certes, mais bon, c'est uniquement 4 carrés à remplir. Alors, 4 carrés, c'est rien du tout à comprendre. Vous avez compris grosso modo comment fonctionne l'outil. Et bien, c'est pareil sur ces applications. On a toujours les tâches urgentes et importantes qui sont en haut à gauche, les tâches importantes et non urgentes qui sont situées en haut à droite. Ensuite, en bas à gauche, on a les tâches urgentes et non importantes. Et pour finir, en bas à droite, cette fois-ci, on a les tâches qui ne sont ni urgentes ni importantes. Également, vous pouvez reproduire une matrice Eisenhower sur un tableau Trello. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Trello, moi, c'est un outil qui m'a quasiment changé la vie. Je l'ai découvert il y a maintenant plus d'un an et j'organise toute ma vie professionnelle et personnelle sur Trello. Alors, peut-être que je vous en parlerai un jour, mais sachez que grâce à Trello, en fait, Trello, j'ai même pas expliqué ce que c'était, je viens de me rendre compte, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un outil en fait qui reprend le système du Kanban, qui est un outil, on va dire, de productivité industrielle. Trello est basé sur un système de colonnes et de cartes. On crée autant de colonnes que l'on veut, qu'on intitule comme on veut, et dedans, on place des cartes qu'on intitule également comme on veut. Et après, il suffit de basculer les cartes, de colonne en colonne, en fonction de l'avancement de nos tâches. Tout simplement. Et donc, on va dire comment se matérialise la matrice Eisenhower au travers de Trello. Si vous décidez d'utiliser cet outil, simplement prenez un Trello vierge et constituez 6 colonnes. La première colonne, vous allez l'appeler Inbox, donc c'est là que vous allez faire votre to-do list. C'est là que vous allez saisir à la volée toutes les tâches que vous avez à faire, qu'elles soient personnelles ou professionnelles. Ensuite, deuxième colonne, ce sera la colonne des tâches urgentes et importantes. Troisième, la colonne des tâches importantes et non urgentes. Quatrième, la colonne des tâches urgentes et non importantes. Et enfin, la cinquième, vous l'avez deviné, la colonne des tâches non importantes et non urgentes. Et enfin, la toute dernière colonne, la numéro 6, on veut dire que c'est la corbeille. Dès qu'une tâche sera terminée, vous la, hop, glissez dans la corbeille, donc de la dernière colonne. Et ensuite, grâce à cette dernière colonne, une fois par semaine, soit en fin de semaine, soit en tout début de semaine suivante, vous allez la vider. Et comme ça, vous allez voir de vos yeux toutes les tâches que vous avez accomplies en une semaine, et c'est galvanisant. Ensuite, vous la videz, vous repartez à zéro, et votre objectif sera de remplir le plus possible cette corbeille pour la revider par la suite. C'est comme ça que je fonctionne, moi, dans mon organisation personnelle sur Trello, et croyez-moi que chaque lundi matin, quand je me prévois mes tâches, je vide ma corbeille de tâches accomplies en semaine moins 1, et c'est très satisfaisant de défiler, de voir tout ce qu'on a accompli en une semaine. Et c'est très motivant pour la suite. Et puis après, pour toutes les personnes, on va dire, qui sont plus old school ou qui préfèrent le papier, un simple cahier, vous tracez dessus un carré, vous le coupez en deux, et ça fait parfaitement votre matrice Eisenhower. Donc voilà. Voilà, ce podcast est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère que je vous ai fait découvrir la matrice Eisenhower. J'espère qu'elle va vous apporter des choses dans votre quotidien. Et j'espère surtout que vous allez relever mon défi. Dans tous les cas, n'hésitez pas à m'écrire par message privé pour me dire justement si vous souhaitez le relever, si vous comptez le relever, et surtout pour me faire votre feedback à la suite. Maintenant, comme d'habitude, je vais faire mon petit call to action. Si jamais vous avez aimé cet épisode, si jamais je vous ai apporté des choses, on va dire, au travers de ce podcast, laissez-moi une note sur iTunes, 5 étoiles de préférence, pour m'aider à référencer au mieux mon podcast. Et toute dernière chose, pour toutes les personnes qui souhaitent développer leurs soft skills, allez faire un tour sur mon site, que j'ai changé récemment d'ailleurs, pour obtenir ma formation gratuite, qui va vous permettre, on va dire, de vous donner les bases nécessaires à un développement efficace de vos compétences transversales. Maintenant, moi je vous dis à la semaine prochaine. Ciao !